Clap, Mathieu Charrier.
Et c'est maintenant l'heure d'ouvrir notre tour de table des critiques dans Clap. On va débattre des films sortis en salle cette semaine. Alors au programme Tenet, dont on a beaucoup entendu parler, Effacer l'historique, Petit Pays aussi, qui est sorti exceptionnellement hier. Avec aujourd'hui autour de moi, d'abord Marilyn Letertre, journaliste cinéma pour Madame Figaro et le site Yahoo. Bonjour Marilyn.
Bonjour Mathieu.
Et puis je suis très heureux d'accueillir Marie-Aimée Bonnefoy, qui couvre le cinéma depuis quelques années maintenant pour la Charente Libre, ici le journal local, parce que j'ai commencé à la Charente Libre, qui m'a offert ma première chance, et c'est grâce à eux que je suis là. Bonjour Marie-Aimée.
Bonjour Mathieu, enchantée de te retrouver.
Alors on va commencer par débattre du film le plus attendu depuis le déconfinement, le premier blockbuster à risquer une sortie en salle. C'est donc Tenet, signé Christopher Nolan.
Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes, et parfois aussi les mauvaises.
Bon, le résumé, je vais vite le faire, parce que c'est tellement dur à résumer. En gros, un agent américain, incarné par John David Washington, qu'on avait découvert dans Black Landsman, est chargé d'empêcher l'apocalypse, tout simplement, d'empêcher l'extinction de notre monde, qui est orchestré, figurez-vous, par un homme, mais depuis le futur. Voilà, donc on va alterner entre présent, futur, passé, voiture qui avance ou qui recule, balle de pistolet qui parfois re-rentre dans le barillet du pistolet quand on tire, c'est original.
Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé.
On va d'abord écouter ce que vous, vous en avez pensé à la sortie des salles.
C'est du Nolan, c'est superbe. Ça attaque dur et ça finit pareil. J'irai le revoir une deuxième fois.
Un autre concept par rapport aux autres films de Christopher Nolan. Oui, il faut s'accrocher, bien suivre toute la notion scientifique un peu de l'histoire, mais... Très intéressant.
Un peu compliqué. Et alors là, avec les histoires d'inversion, ça complique beaucoup.
Je pense qu'il faut le voir plusieurs fois avant vraiment de comprendre l'histoire totalement. Mais sinon, c'est vraiment bien fichu, bien tramé.
Ceux qui adorent les films de Nolan, il faut qu'ils viennent. Franchement, ils ne seront pas déçus.
Alors voilà, en résumé, Marilyn, les gens aiment bien mais n'ont pas tout compris. Votre opinion ?
Eh bien, je suis comme les gens. J'aime bien, mais je n'ai pas tout compris. Et en fait, Nolan nous le dit dès le début. Il y a un de ses personnages qui dit dans le film « N'essayez pas de comprendre, ressentez ». Ben voilà, je crois qu'en fait, le film, il se résume comme ça. Il faut juste se laisser embarquer dans l'aventure. Oui, c'est un énorme camoulox, une sorte de Rubik's Cube. On ne comprend rien, c'est un gros shaker. Mais en même temps, comme un shaker, à la fois, ça donne le tournis et ça euphorise. C'est-à-dire que ça va très vite. Il y a un côté, ça a beaucoup été dit, James Bond, Mission Impossible, hyper efficace. Mais par contre, si vous me demandez de vous résumer l'intrigue, j'en suis strictement incapable. Bon, alors, ça, mais il y a beaucoup, beaucoup d'épates visuelles. C'est un peu d'esbrouf aussi, mais en même temps, bah, comme on dit aujourd'hui, on kiffe, voilà, on s'amuse. Et ça fait du bien de voir aujourd'hui un film de grande ampleur aussi sur les écrans. Après, de là à savoir si c'est le film qui sauvera les salles de cinéma, la grande question que tout le monde se pose, je n'ai pas la réponse, mais je l'espère.
Marie-Aimée, que pense la Charente Libre de Tenet ?
Que rajouter à ce qu'a dit Marilyn, si ce n'est qu'effectivement, pour les exploitants, c'est un film à voir uniquement sur grand écran. Et donc ça... Ça sert un petit peu le cinéma qui a besoin d'être boosté. En revanche, je suis comme elle, je n'ai pas compris grand-chose. Tout le monde dit qu'il faut le voir deux fois. Moi, je m'en passerai. Honnêtement, je m'en passerai. Je n'y retournerai pas. Tant pis, je n'ai pas tout compris à la physique quantique, à la cérébralité de Nolan. Je veux bien croire que c'est profond. Je n'en suis pas si sûre. Ce que j'ai gardé d'intéressant, c'est le film d'espionnage, les courses-poursuites, les personnages imposés, c'est-à-dire le méchant russe qui veut faire sauter la planète, sa femme, sa belle épouse qui ne sait pas comment se dépatouiller pour s'en sortir. Il nous fait voir du pays, ça c'est intéressant, la photo est superbe. Il y a des grandes scènes spectaculaires, mais 2h30...
Ah, moi, je trouve qu'on ne les voit pas passer les 2h30. On a beaucoup dit que c'était aussi un hommage au cinéma de James Bond, enfin au James Bond au général. C'est vrai qu'on reconnaît même quelques scènes, quelques plans. Pour ça, on peut dire qu'on passe quand même un bon moment.
Oui, et puis c'est vrai que le côté James Bond, on le retrouve ne serait-ce que dans la caractérisation du méchant. C'est Kenneth Branagh qui fait un russe. Alors donc, il a un accent à couper au couteau. Mais en même temps, sa femme est effectivement une très très belle femme qui est évidemment sous le joug de cet homme tyrannique. Voilà, mais on a un Robert Pattinson en espion un peu dandy, les cheveux blonds, peroxydés. Voilà, il y a un côté très James Bondien dans la caractérisation des personnages. Mais en même temps, c'est ça aussi qui fait le charme du film et qui fait qu'on lui pardonne. Petit excès de prétention qu'il a en nous disant qu'il est plus intelligent que nous, c'est parce qu'à côté de ça, il y a une efficacité totale.
Moi, quand même, je trouve que ça manque d'humour. Ça manque de... C'est un petit peu plombant, quand même. ça se prend très au sérieux, honnêtement. Même si c'est virtuose, ok, même si c'est du grand cinéma. Moi, je préfère la pointe décalée et l'humour de James Bond.
Vous le disiez, ce qui est pratique, c'est comme il faut aller le voir deux fois pour essayer de comprendre de quoi ça parle, ça va relancer la fréquentation en salle. Voilà. Warner a dit qu'il fournirait les chiffres que lundi, ce qui est exceptionnel. Donc, on ne peut pas encore vous dire si ce Tenet signé Christopher Nolan a bien démarré ou non.
Clap, Mathieu Charrier.
Ah non, 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 je ne peux plus faire l'amour avec vous, monsieur. Je le saurais, hein, quand même.
Donc, vous m'avez offert un whisky. Donc, à ce moment-là, je vous ai proposé de venir dormir chez moi. Et on a fait l'amour.
Commençons une vidéo.
Faut effacer ça tout de suite.
Si je veux vous faire chanter, je vais pas l'effacer.
Sylvain, c'est maman. Ne tape pas mon nom dans Internet, s'il te plaît. J'arrive.
Deuxième film dont on débat aujourd'hui dans Clap, il a fait l'ouverture ici du festival d'Angoulême où nous sommes toujours, il a fait l'ouverture hier soir, c'est Effacer l'historique du duo Carverne et Delépine avec qui on le voit déjà Saint Amour, Mammouth, I Feel Good avec Jean Dujardin qui était déjà présent ici. Alors il signe une nouvelle satire contre l'ère que nous vivons, cette ère du tout numérique à travers trois amis, il y a Blanche Gardin, Denis Podalydès et Corinne Mézéro. Blanche Gardin, elle doit payer à Vincent Lacoste une rançon si elle ne veut pas qu'il diffuse leur sextape sur les réseaux sociaux, voilà. Corinne Mézéro, elle est chauffeur VTC, c'est-à-dire qu'elle enchaîne les courses et les mauvaises notes, elle comprend pas pourquoi. Et puis vous avez Denis Podalydès qui doit aider sa fille harcelée sur les réseaux sociaux. Les trois voisins de lotissement, anciens gilets jaunes de la première heure, vont donc partir à l'attaque des GAFA, rien que ça. Alors vous, qu'en avez-vous pensé à la sortie des salles? On écoute.
J'ai beaucoup aimé, voilà, j'aime beaucoup ces réalisateurs. Ce qui m'a fait rire, c'est des clins d'œil, c'est l'autodérision sur soi-même. Moi, je me suis reconnue dans plein de situations.
C'est gentil, mais je le trouve un peu inabouti. Il n'y a pas beaucoup d'histoire quand même, mais bon, c'est un bon moment.
Il y a des choses qui sont dénoncées, mais pourraient l'être avec plus de subtilité.
C'est assez drôle parce que plus ils avancent dans leur travail et plus ils sont poétiques.
Excusez-moi, j'ai dormi pendant une nuit. Je peux pas vous dire, je retournerai le voir. Ça a l'air bien. Excusez-moi, bonne journée.
Marie-Aimée, ce monsieur a dormi tout le film. Et vous?
Alors, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que c'est, pour résumer, c'est Kafka chez les GAFA. J'avais été un peu déçue par I Feel Good. Moi, je les suis depuis le début, le duo Carverne et Delépine. Je suis une fan. Et je trouvais I Feel Good un peu désinvolte. Et là, je trouve ça très écrit, très argumenté, très suivi. Même si ça semble un peu chaotique, je trouve que ce chaos sert aussi... l'argument qui est un sujet politique et sociologique. Et c'est ce qu'ils disent, tout le monde le vit tous les jours. Et c'est ça qui m'intéresse chez eux, c'est que même s'ils situent un peu leur histoire dans une zone périurbaine, pavillonnaire, qu'ils aiment défendre, mettre en avant, je trouve que ça parle à tous. C'est un film qui parle à tous. Et j'aime leur combat et ils continuent à se battre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Faut préciser que c'est l'univers de Carverne et Delépine. C'est-à-dire qu'il y a aussi un peu de potacherie. C'est drôle, on n'est pas dans le décalé comme ils ont pu le faire à une certaine époque. Mais quand même, Marilyn.
C'est très, très subversif. Ça l'a toujours été dans leur cinéma. C'est le duo de cinéastes punk du cinéma français. Donc, effectivement, tout le monde en prend pour son grade. L'État français, mais aussi les Gilets jaunes. Enfin, voilà, ça, on ne l'a peut-être pas encore dit, mais c'est le premier film qui traite effectivement de la question des Gilets jaunes, puisque les trois héros du film se sont rencontrés sur un rond-point. Et justement, le rond-point, c'est une figure centrale dans le cinéma de Carverne et Delépine, puisque ce qu'ils disent toujours, c'est qu'ils aiment filmer la France de la périphérie, et la périphérie pour eux, le symbole, c'est le rond-point. Donc le film, il est libre, il est intelligent, il est subversif. Et tout à l'heure, on disait qu'il fallait aller, pour reparler de Tenet, voir Tenet une deuxième fois. Eh ben non, allez le voir une fois et puis allez voir Effacer l'historique, parce que eux aussi, ils mettent le monde sans dessus dessous, mais avec humour, avec intelligence, avec un vrai propos fort, pardon, sur ce qu'on disait, l'ubérisation de la société et sur la déshumanisation de notre monde hyper connecté et en réalité très déconnecté. Et surtout, c'est porté par un trio d'acteurs formidables que sont Corinne Mézéro, Denis Podalydès et Blanche Gardin, qui sont hyper raccord avec le côté punk du cinéma de Carverne et Delépine.
Voilà pour Effacer l'historique, qui lui a très bien démarré en salle mercredi dernier. On a les chiffres, donc voilà. Le public semble pas déçu, donc allez voir ce film signé Carverne et Delépine.
Clap.
La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils ont pas le même territoire?
Bah si, ils ont le même pays, ils ont la même langue, ils vont à la même église.
Mais bah pourquoi alors?
Et bah à cause de leur nez.
Arrête. Si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu choisis pas, tu vas faire quoi? séparer la classe en deux.
Papa!
Ouais.
Il y a eu des coups de feu.
Qu'est-ce
qui se passe là?
Je suis là.
Des militaires ont tué le nouveau président.
Dernier film dont on débat dans Clap, votre nouvelle émission cinéma, il est sorti juste hier, c'est Petit Pays, signé Éric Barbier, le réalisateur qui adapte donc ce roman de Gaël Faye, sorti il y a 4 ans, Goncourt des lycéens, plus d'un million d'exemplaires vendus, c'est énorme, et dans lequel Éric Faye racontait son enfance au Burundi, comment cette enfance avait été chamboulée, c'est le moins que l'on puisse dire, d'abord par la prise de pouvoir des militaires au Burundi, puis ensuite évidemment par le génocide rwandais qui avait enflammé toute la région. Voilà, il avait raconté dans le livre, je trouve que le film est très adapté du livre et raconte bien l'univers du livre. Je crois que Marilyn n'est pas tout à fait d'accord, on va y revenir. Mais vous, public, qu'en avez-vous pensé? Vous, spectateurs, on vous écoute.
Bouleversant, extraordinaire, un film que je vais garder en mémoire. Il sort vraiment du commun.
La violence, je pense qu'elle a été certainement au centuple de ce qu'on voit dans le film. C'était quand même un peu caché, heureusement, parce que sinon, ça aurait été insoutenable.
Je trouve que les comédiens sont extraordinaires. De la mère au père aux enfants, tous sont formidables.
Moi, je suis d'origine rwandaise, je suis né là-bas et donc j'étais là-bas à l'époque pendant le génocide. Ce que j'aime aussi, c'est par rapport au livre. Le réalisateur a su se réapproprier et en même temps, tout en restant fidèle.
Marilyn, d'abord la parole au procureur. Vous n'avez pas été, j'en rajoute un peu, mais vous n'avez pas été totalement convaincu par Petit Pays.
Effectivement, je n'ai pas été totalement convaincue sans non plus trouver le film mauvais. Donc de là à m'appeler procureur, il y a une petite marge. Mais cela dit, je trouve que le film est beaucoup moins fort que le livre. Le livre se mettait vraiment à hauteur d'enfant, ce qui est somme toute a priori l'ambition du film. Je trouve qu'il n'y parvient pas. Parce que le film, il faut dire, est un peu plus resserré sur la cellule familiale, un peu moins sur l'enfant et ce qui se passe à côté. Pour le coup, moi, je trouve qu'on perd énormément en force, en charme et en émotion. Ce qui, pour moi, est totalement préjudiciable. Parce qu'en plus, un film sur le génocide rwandais à hauteur d'enfant sans émotion, c'est quand même très très regrettable. Je pense qu'il y avait là matière effectivement à nous mettre les poils, comme on dit. Donc voilà. Et au-delà de ça, je trouve que Jean-Paul Rouve est très très bon, mais je ne suis pas convaincue par le reste du casting. J'avoue que ça m'a énormément sorti du film parce que je n'y croyais pas, je ne les trouvais pas spécialement justes.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Marilyn et je crois que Marie-Aimée est de mon avis. Nous allons donc l'écouter.
Je ne suis pas d'accord non plus. Je trouve Marilyn sévère. Je pense que c'est le problème de la transposition d'un livre aussi fort à l'écran. C'est difficile. Je trouve qu'Éric Barbier s'en est plutôt bien sorti, bien mieux que ce qu'il avait fait avec La promesse de l'aube. Et je ne m'attendais pas à, non pas une énorme réussite, mais cette réussite un peu, au fond, consensuelle. Je pense même qu'on peut conseiller à des adolescents d'y aller, parce que le roman a eu le prix Goncourt des lycéens. Je trouve que c'est très didactique pour eux, sans trop les violenter, parce que la violence est hors champ, malgré une scène qui prend aux tripes. Et finalement, ça dit beaucoup de choses d'un conflit qu'on aurait pu oublier, qui revient à l'écran, c'est intéressant. Je suis d'accord sur l'interprétation, à part Jean-Paul Rouve, qui est un petit peu faible, mais ça la donne son cachet, justement, je ne sais pas comment dire, mais local, du film, en plus. Hein, cette espèce de, peut-être un peu de surjeu, mais ce n'est pas très gênant. Et voilà, je
précise que vous êtes une ancienne professeure de lycée, oui. Donc quand vous dites d'aller le voir avec des adolescents, vous savez de quoi on parle.
C'est ma position un petit peu de prof de lettres. Hein. Et oui, parce que je trouve le film très didactique au fond.
Le mieux, c'est d'aller voir Petit Pays pour vous faire votre avis. Parce que même si Marilyn a des réserves, elle le dit elle-même, c'est quand même un film qu'on peut aller voir. C'est loin d'être un film raté. Voilà ce que l'on pouvait dire des films sortis cette semaine. Merci beaucoup à Marilyn Le Tertre, que je vous invite à lire dans Madame Figaro, à Marie-Aimée Bonnefoy, que vous pouvez également lire dans La Charente Libre. Et maintenant, on trouve tous ces journaux en ligne facilement, même quand on ne vit pas en Charente, donc allez-y. Et merci au Festival du film francophone d'Angoulême qui nous a accueillis pour ce premier numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On se retrouve la semaine prochaine, 14h, toujours le samedi sur Europe 1, pour un nouveau récit, cette fois consacré à Kirk Douglas. Ce sera l'occasion pour nous de parler des acteurs engagés en politique. Et puis un nouvel invité du questionnaire, un nouveau tour de table, bref, même programme. D'ici là, surtout, allez au cinéma, masqué, j'ai testé, c'est pas du tout gênant. Dans un instant, vous retrouvez Isabelle Morizet qui reçoit aujourd'hui Yves Candebord, le chef cuisinier. Bon après-midi à l'écoute d'Europe 1.